Chers collègues, bonjour. Il est normal, dans une journée consacrée à l'internat comme chance de plus pour réussir, de parler bien sûr des internats d'excellence, puisque c'est la grande initiative qui a été prise il y a maintenant quelques années par le ministère de l'Éducation nationale. Donc je vais vous présenter rapidement les résultats d'une recherche qui a été menée pendant 2 ans dans le cadre de l'IFE et par toute une série d'universitaires. Patrick Rayou a rassemblé une équipe d'universitaires de diverses universités, alors de Paris, du Havre, de Toulouse, de Savoie, etc. Et nous avons pu enquêter pendant 2 ans, d'abord sur 5, puis sur 7 établissements internats d'excellence, 7 établissements qui sont divers par leur taille, par le niveau scolaire auquel ils recrutent des élèves, certains en collège, d'autres en lycée, d'autres de niveau, divers aussi par leur organisation. Certains sont des établissements où tout se passe au même endroit, à la fois le travail scolaire et la vie des internes, d'autres où les élèves résident à un endroit et ils sont répartis dans différents établissements, collèges ou lycées, dans l'environnement. Ce sont également des établissements divers par leurs effectifs, entre une trentaine et plus de 100 ou 150. Voilà. Donc nous avons vu 7 établissements, ce qui veut dire que nous avons à la fois un certain kaléidoscope, un certain éventail de situations, et en même temps nous n'avons pas tout vu. Il y a des établissements que nous n'avons pas pu visiter, ne serait-ce que parce qu'ils étaient éventuellement déjà abondamment observés par d'autres équipes, ou bien parce que nos forces étaient limitées, bien que nous ayons été des collègues de diverses universités. Notre positionnement dans cette recherche a été double. D'une part, nous allions dans ces établissements pour faire une recherche à partir d'un certain nombre de questions qui étaient qu'est-ce que c'est que finalement cette institution un petit peu nouvelle qui se met en place, qui sont les élèves qui y rentrent, de quelle façon les fait-on arriver ici, quelles sont les attentes des parents, comment les professionnels se mobilisent-ils, comment les équipes de direction sont-elles elles-mêmes ébranlées par l'irruption de ce nouveau dispositif. Bref, nous avions des questions de chercheurs et à ce titre-là, nous avons tenu à garder une certaine distance sans laquelle il ne peut pas y avoir de travail de chercheur. Et en même temps, et vous sentez bien là le paradoxe, il nous était demandé, à la fois par la DGESCO, qui nous a facilité les choses en nous ouvrant les portes dans les établissements, et que j'en profite pour remercier ici, à la fois par la DGESCO, mais aussi par plusieurs équipes de terrain, il était demandé, puisque c'était un nouveau dispositif qui posait des questions à tout le monde, un nouveau dispositif dont personne n'avait la clé, eh bien que, puisqu'il y avait des chercheurs qui venaient sur le terrain, que ces chercheurs puissent offrir une certaine forme d'accompagnement, je dirais volontiers, joue un rôle de sparring partner, comme on dit à la boxe, c'est-à-dire on permet de s'affronter, de confronter nos idées. Nous n'avons pas du tout adopté une position de recherche-action, c'est-à-dire nous n'avons pas été mêlés à l'action. Pas du tout, parce que ça nous aurait empêché d'être complètement des chercheurs. Et en même temps, nous avons eu le souci les uns et les autres, selon les souhaits des équipes, de jouer ce rôle de sparring partner ou de faire un retour aux équipes quand elles le souhaitaient. Et selon les modalités qu'elles désiraient. Alors enfin, pour introduire ce propos, je dirais que on a observé 7 établissements dont j'ai dit rapidement la diversité, pas tous les établissements. La gageure, c'est de tirer à partir de ces 7 cas un certain nombre d'enseignements généraux, de tenir un propos d'ensemble qui soit pas faux, en même temps qu'il vous sera peut-être difficile parfois de reconnaître l'établissement dans lequel vous travaillez depuis 2 ans. Ce que je vais chercher au nom de l'équipe, c'est à rendre compte de lignes de force, sans pour autant trahir les situations locales. Et bien entendu, puisque le temps m'est compté, je vais simplifier le propos. Parfois, ça vous paraîtra une présentation un peu à grand coup de serpe, mais vous me le pardonnerez, j'espère, et nous avons un petit peu de temps à la fois pour la discussion après cet exposé, et puis nous avons quand même 2 jours pour continuer à réfléchir. Je vais organiser mon propos en 3 temps. Le premier temps, va faire état des résultats de cette recherche sur les internats d'excellence. Dans un second temps, je soulignerai l'apport des internats d'excellence, en particulier pour les élèves et les personnels, en même temps que j'essaierai de pointer un certain nombre de limites du dispositif. Et troisième temps, et qui fera particulièrement, je pense, la transition entre les internats d'excellence et les internats de façon plus générale, j'essaierai justement de montrer ce que ce dispositif récent peut éventuellement apporter à la réflexion plus générale sur les internats. Premier temps, donc, les résultats de la recherche sur les internats d'excellence. Je le ferai en 6 points, qui reprennent d'ailleurs les points du rapport de recherche que nous avons élaboré, et j'irai assez vite, hein, vous me le pardonnerez. D'abord, les internats d'excellence représentent un dispositif dérogatoire. Les conditions de la mise en place ont été des conditions assez exceptionnelles, à la fois pour les moyens alloués, enfin on a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'argent, effectivement, le recrutement et le profil des personnels qui sont impliqués, la relation entre les établissements et les autorités académiques. Et puis, il n'y a pas eu tout à fait les contraintes habituelles en termes administratifs ou financiers. Par exemple, pour le recrutement des AED, il n'est pas rare que les établissements aient bénéficié plus facilement que des établissements ordinaires de l'affectation d'un ou plusieurs AED. Deuxième point dans ce dispositif dérogatoire, il y a eu un portage quand même institutionnel très fort, tant au niveau du ministère que des rectorats, des inspections d'académie. Les directions ont été très fortement motivées, les directions d'établissement, et l'engagement des équipes a été présent, même s'il a été fort variable. Souvent, on a eu un noyau dur de collègues, enseignants, mais aussi personnels de vie scolaire, parfois aussi, quand il y en avait, assistantes sociales ou infirmières. Et puis, à ce noyau dur, se sont agrégés peu à peu d'autres collègues. Et ces équipes ont travaillé dans une certaine latitude. Ils ont possibilité d'inventer des solutions ou des dispositifs face aux problèmes qui étaient rencontrés ou qui ont été identifiés au fil des semaines. Et puis, troisième point dans ce dispositif dérogatoire, c'est que les internats d'excellence ont recruté leurs élèves. C'est pas si fréquent que ça, que dans l'enseignement public, on choisisse ses élèves. À part les grands lycées parisiens, comme Louis le Grand, qui sont à la fois choisis par leurs élèves et qui choisissent leurs élèves, qui d'ailleurs donnent à ces grands lycées parisiens le caractère d'établissement privé. Si un établissement privé, c'est un établissement qui choisit ses élèves et qui est choisi par ses élèves, eh bien, c'est assez finalement peu ordinaire que dans l'enseignement public, on recrute ses propres élèves, et ce recrutement a impliqué à la fois les établissements, bien sûr, mais d'autres personnels académiques et aussi parfois des personnels d'autres métiers, des travailleurs sociaux du quartier, etc. Alors j'en viens justement maintenant au deuxième point, le recrutement dans les internats d'excellence. C'est une opération dont chacun sait ici qu'elle est tout à fait essentielle, parce que le recrutement conditionne la suite, tant dans le domaine scolaire que dans le domaine de la vie juvénile. Une question a été, bien sûr, au moment du recrutement, de déterminer le public à recruter. Ça a pu être un enjeu de débat, parfois de lutte à l'intérieur des établissements. S'agissait-il de privilégier le scolaire ou le comportemental ou bien les conditions sociales? Et il a pu y avoir des télescopages entre ces exigences et parfois des superpositions pas voulues. Par exemple, on arrive à une commission de recrutement avec un certain nombre d'objectifs, et puis la logique même de la commission, j'allais presque dire la dynamique de groupe, fait que ce sont d'autres critères qui finissent par l'emporter. Alors, encore dans cette dans ce moment du recrutement, excellence au départ ou excellence à l'arrivée ou excellence des moyens mis à la disposition? S'agit-il de recruter des élèves qui sont des, comme l'a dit, comme le dit un des chapitres de notre rapport, des méritants patents ou des méritants potentiels? Voilà, et puis il s'agissait aussi d'évaluer au moment du recrutement la motivation des élèves à venir ici et puis la possibilité pour leurs parents de se mobiliser. Le moment du recrutement est un moment qui se vit sous forte pression. Forte pression, pourquoi? Eh bien parce que, d'abord à l'intérieur de l'établissement, on n'est pas forcément complètement d'accord sur qui recruter, mais aussi un débat avec l'administration. Pourquoi? Ben parce que l'administration peut vouloir faire réussir le dispositif et réussir le dispositif dans un dispositif qui est très très fortement porté par une équipe politique, c'est aussi que le dispositif existe, c'est-à-dire qu'il impose sa place dans le paysage éducatif. Donc il faut remplir les internats d'excellence. Et puis une forte pression aussi des équipes des établissements d'origine qui ont poussé à ce qu'on recrute tel élève ou tel autre, avec parfois le soupçon tel a été poussé parce qu'il est particulièrement bon et tel autre a été... Oui, on a dit des tas de choses bien sur tel élève parce qu'on est plutôt content qu'il aille ailleurs que dans l'établissement. Et puis, forte pression aussi, bien sûr, des parents. J'en viens justement à parler maintenant des parents. Les parents des internes d'excellence. La majorité des élèves que nous avons vus sont des élèves issus de catégories modestes, de catégories populaires, certains de catégories très très en difficulté sociale. Il reste cependant que une part d'élèves variables dans les établissements n'est pas issue de milieux populaires. Ce sont des élèves de classe moyenne, parfois petite classe moyenne, parfois pas tout à fait petite classe moyenne. Les familles diffèrent socialement, mais elles sont également diverses sur le plan de leurs modèles éducatifs. Ça a un peu représenté une surprise pour certaines équipes, mais certains parents, une partie en tout cas des parents, sont des parents extrêmement cadrants. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait à l'opposé de ce qu'on peut imaginer, de ce que l'on dit parfois des parents de milieu populaire. Ils sont absolument pas dans la démission parentale, ils sont très cadrants, d'aucuns diraient trop cadrant, alors que d'autres parents, qu'ils soient de milieu populaire ou même de parents des classes moyennes, se disent plutôt déroutés par leurs enfants et un peu démunis. Ils savent plus trop comment les prendre et ils sont bien contents que l'internat d'excellence vienne leur offrir une possibilité de sortir d'une ce qui se représente pour eux une impasse. Les attentes des parents, pour autant qu'on ait pu les apprécier, ce sont des attentes relativement classiques par rapport à tout internat. C'est-à-dire que les parents demandent pour leurs enfants un cadre qui va les aider au travail, qui va structurer leur vie quotidienne et qui va leur permettre, bien sûr, d'échapper à l'établissement de proximité ou du quartier. Et ça, il n'y a pas besoin d'interroger des parents d'internes d'excellence pour cela. Dans des tas d'autres internats, nous avions rencontré la même attente. Alors, est-ce que ça signifie que excellence, ça ne fait rien aux parents? Je crois que ça a un effet. Proposer l'internat d'excellence, je crois que ça a un effet pour les parents, mais ça a aussi un effet pour les professionnels. Et pourquoi pour les professionnels? Parce que, finalement, ça fait quand même longtemps que l'internat existe. Et malgré la décrue historique que M. Colonna a rappelée tout à l'heure, les internats, quand même, ils existent. Et ils n'ont pas fermé. Or, on ne peut quand même pas dire que les internats, au cours des 30-40 dernières années, aient remporté un succès considérable, puisque leurs effectifs ont eu plutôt tendance à décroître. Alors, je fais la part, bien sûr, du maillage de l'État, du territoire en établissement scolaire, mais tout de même. Parce que les internats étaient quand même affublés d'une image relativement peu favorable, assez grise, et semble-t-il, proposer l'excellence a été plus facile pour des chefs d'établissement on vous propose un internat d'excellence et pas un internat. Et donc, on insiste plutôt sur excellence. Les parents, ils peuvent entendre internat, mais du coup, l'excellence colore les murs de l'internat d'une façon tout à fait différente. Donc ça, c'est plus facile, je crois, à présenter aux parents, surtout qu'on n'a pas l'impression, quand on est chef d'établissement, de dire « votre enfant, vous devriez le mettre en internat », façon de dire « vous savez pas l'éduquer, il sera mieux éduqué ailleurs ». On insiste sur excellence. Et de la même façon, les parents peuvent l'entendre de cette façon. Quand on le leur propose, internat d'excellence, eux, ils entendent excellence. De fait, ils vont faire à excellence les demandes qu'ils font à internat. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais on me propose un internat d'excellence. C'est-à-dire, en fait, on me propose quelque chose parce que mon enfant, il est bien, il mérite d'y être. Et donc, on n'est pas en train de m'accuser de ne pas savoir éduquer mes enfants. Donc, cette appellation a peut-être contribué à revaloriser finalement l'image de l'internat. Et ça, ce sera peut-être au bénéfice beaucoup plus large des autres internats. Ce qu'on note encore du côté des parents, c'est qu'il y a une certaine confiance mutuelle qui s'installe entre les parents et l'établissement. Elle existe, bien sûr, aussi dans des internats que l'on pourrait dire classiques, mais elle est très manifeste ici et sans doute plus manifeste. Une confiance mutuelle qui est faite d'abord de reconnaissance, parfois très explicitement exprimée, mais aussi des faits de relations, de rencontres, de relations qui sont, oui, tissées de rencontres, de communications téléphoniques, de relations qui sont plus fréquentes et souvent, dites par les parents, plus faciles. C'est-à-dire, on ose plus, on a moins le sentiment de déranger, l'interlocuteur est disponible. Et parfois, c'est l'établissement lui-même qui, par la voix d'un professeur référent, par la voix d'un ou d'une conseiller ou conseillère principale d'éducation, prend l'initiative de contacter les parents pour échanger avec eux, et pas pour échanger avec eux sur des problèmes qui se seraient posés ou qui auraient surgi, mais pour échanger avec eux sur voilà comment ça se passe, et éventuellement, vous savez, votre enfant, votre fille, elle évolue très très bien et on voulait vous le dire. Voilà. Les effets sur la famille ne sont pas tout à fait nuls. Les parents se trouvent, bien sûr, pour un certain nombre d'entre eux, libérés d'une préoccupation qui parfois les rongeait un petit peu. Et donc certains nous ont dit « j'ai pu reprendre une formation, j'ai pu reprendre un travail, etc. » Il y a aussi des effets favorables quand finalement les retours qui sont envoyés aux parents, soit par ces communications que je viens d'évoquer, soit même par le simple fait que leur enfant soit pris à l'internat, sont des retours favorables. Si on prend mon enfant dans un internat d'excellence, c'est que d'une certaine manière, j'ai pas mal fait mon travail de parent. Voilà. Et puis, comme on pourrait dire dans tout internat, le fait que l'enfant soit à l'internat, et donc il fasse l'essentiel de son travail, contribue à pacifier les relations familiales, tant il est vrai que une des pommes de discorde les plus constantes dans l'existence des familles aujourd'hui, entre les parents et les adolescents, qu'est-ce que c'est ? C'est le travail scolaire. Bien sûr, ça ne parle pas de vos familles, mais ça parle de beaucoup d'autres familles. Quatrième point, le travail scolaire. Le travail et les apprentissages dans les internats d'excellence. Ce que l'on a noté, c'est que la plupart des élèves qui rentrent en internat d'excellence subissent ce que nos collègues a joliment appelé un choc docimologique. C'est-à-dire qu'ils avaient des bonnes notes dans leur établissement de départ, ils arrivent ici et tac, c'est un établissement d'excellence, mais leurs notes chutent. Bon, c'est vrai que ça fait un choc, les exigences ne sont pas les mêmes, mais petit à petit, finalement, ce décalage est rattrapé par les élèves, certes, avec une plus grande quantité de travail, un travail plus régulier, plus assidu, et finalement, ils rentrent petit à petit dans un régime de scolarité que l'on pourrait dire normal, c'est-à-dire, au fond, différente de ce qu'elle était, telle qu'ils le disent et telle qu'ils le décrivent, dans leur établissement d'origine. Ils travaillent plus. Et c'est certainement une condition nécessaire pour réussir. Ce n'est pas forcément une condition suffisante. Car tous les élèves n'ont pas forcément acquis antérieurement et n'acquièrent pas forcément à travers ce travail supplémentaires, les dispositions cognitives qui sont nécessaires pour réussir durablement, pas pour réussir dans l'instant, mais pour réussir sur la longueur du parcours scolaire. Et ils n'ont pas non plus forcément acquis toute l'autonomie intellectuelle, même s'ils peuvent acquérir une autonomie pour la mise au travail et le maintien au travail, ce qui n'est pas forcément tout à fait la même chose. Cependant, effectivement, les conditions sont manifestement favorables dans les internats d'excellence. On leur offre un cadre de travail, on leur offre un temps, on leur offre des lieux et aussi des adultes qui sont manifestement dévoués à leur réussite, qui ont la préoccupation de leur réussite. Certains élèves diraient presque trop. Ils veulent vraiment qu'on réussisse. Mais adultes envers lesquels tout de même les élèves se disent, quand on les interroge, plutôt reconnaissants. Quand même, ils nous aident. Hein. Quelquefois, ils nous cassent les pieds, mais ils nous aident. Et enfin, dans cette question d'apprentissage, il y a toute une part qui passe par des activités culturelles dont l'offre a été importante au début, en tout cas, parfois si importante qu'elle était quasiment envahissante, c'était presque trop. Aujourd'hui, on est plutôt dans un régime plus modeste d'offres culturelles, avec des offres culturelles qui sont moins imposées et plus proposées aux élèves. Il reste la question, bien entendu, de l'assimilation de ces apports culturels. C'est-à-dire que autant il peut être extrêmement riche pour les élèves d'assister à une pièce de théâtre ou à un opéra, etc., et extrêmement estimable de la part des professionnels qui leur proposent de proposer ça à des élèves justement qui n'ont aucune occasion d'y aller, qui n'ont aucune occasion de bénéficier de ces aménités culturelles dont eux-mêmes professionnels font bénéficier leurs propres enfants. Donc c'est tout à fait honorable de leur proposer. Et en même temps, c'est pas pour autant que les élèves sont dotés des dispositions qui leur permettront d'en faire leur miel, en quelque sorte. Cinquième point sur les internats d'excellence, et pardonnez, je vais extrêmement, extrêmement vite, quelques remarques sur la vie juvénile. Alors la vie juvénile dans un internat d'excellence n'est pas très différente tout de même de la vie juvénile dans un internat tout court. C'est une sociabilité particulière que celle de l'internat, dans un cadre de vie qui n'est pas simplement d'ailleurs un cadre de travail. C'est une vie dans un encadrement qui est dense, qui est contraignant, peut-être un peu plus dense et un peu plus contraignant dans l'internat d'excellence que dans un internat ordinaire. Dans l'internat d'excellence, comme ailleurs, se déroule toute une vie clandestine, c'est-à-dire à l'insu ou à faire semblant de ne pas savoir des personnels de vie scolaire. Mais au-delà de cette ressemblance avec la vie juvénile dans un internat, pourrait-on dire ordinaire, sans que ce terme soit le moins du monde péjoratif, il y a des spécificités dans les internats d'excellence sans doute au moins, sinon dans la nature, du moins dans le degré. Il y a une très forte tendance à ce que nos collègues a appelé un sevrage, c'est-à-dire en fait les sevrés de la télévision. On va essayer de les sevrer des écrans auxquels ils ont envers lesquels ils ont une addiction tout à fait funeste, sauf les écrans sur lesquels ils vont travailler avec des logiciels pédagogiques ou avec des fichiers de suivi. Mais à part ces écrans qui restent encore en odeur de sainteté, les autres sont plutôt bannis. On regarde peu la télévision globalement dans les internats d'excellence, sauf la première mi-temps des matchs de foot importants. Mais pas forcément la deuxième, parce que ça amènerait à se coucher trop tard. Donc première spécificité, une tendance au sevrage. Deuxième spécificité, enfin quelque chose qui est plus marqué, me semble-t-il, dans les internats d'excellence, nous semble-t-il, c'est qu'il y a très très peu de temps libre. Dans d'autres internats, les élèves disent plutôt on s'embête. Ils n'emploient pas forcément ce mot-là, mais l'idée est la même. On n'a rien à faire, etc. C'est d'ailleurs tellement vrai dans un certain nombre d'internats qu'il y a même des élèves qui disent, comme on n'a rien à faire, on travaille. Bon, si, ils ont pas masochistes, mais quand même, il vaut mieux occuper son temps. Alors que dans les internats d'excellence, il y a très très peu de temps libre. C'est-à-dire que tous les temps sont occupés, soit par du travail, soit par des activités culturelles, et tout se passe comme si, finalement, les différents moments de la vie quotidienne n'étaient jamais qu'une transition vers le jour suivant, pour lequel il va y avoir encore du travail et des choses à faire. Et puis, une autre spécificité des internats d'excellence, c'est que comme les élèves arrivent dans un milieu qui n'est pas le leur, à la fois socialement et scolairement, va se poser un problème d'intégration. Et ce problème d'intégration peut être redoublé en quelque sorte quand ces élèves internes d'excellence font partie de ce que l'on appelle aujourd'hui des minorités visibles et qui, dans l'espace local où ils arrivent, ne sont pas des minorités visibles d'emblée acceptées. Dernier point de résultat de cette recherche. Tout ce qui est vécu, tout ce qui est fait, tout ce qui est vécu par les internes d'excellence sous la direction, sous la conduite, sous l'accompagnement de professionnels, tout ce qui est vécu donc par ces professionnels va avoir des effets sur la professionnalité des personnels, tout à fait lié justement à l'accompagnement des élèves. On s'aperçoit que dans les internats d'excellence que nous avons visités, et je gage qu'il en est de même dans d'autres, il y a eu un très fort renforcement de l'accompagnement des élèves, différents niveaux d'investissement des personnels, semble-t-il de plus en plus de personnels s'associent. Alors bien entendu, tout le monde ne participe pas avec la même intensité. Il y a des enseignants dédiés, dont le service est organisé, bon, c'est le cas dans un des établissements, ils sont là pour l'aide aux élèves, ils sont déchargés de cours ordinaires. Mais il y a aussi toute une série d'enseignants qui sont très impliqués, ils ont leur classe, mais ils participent aussi intensivement au soutien, à l'accompagnement. Et puis aussi, il y a du personnel de vie scolaire qui, de fait, est engagé dans l'accompagnement et pas simplement dans la surveillance des études. Autrement dit, des CPE peuvent participer à l'accompagnement à l'aide aux devoirs, des adjoints d'enseignement aussi, ce qui conduit petit à petit, à petits pas certes, mais ça se fait, à repenser la question de l'articulation entre classe et hors classe. Et à repenser à ce qu'il peut être pertinent de faire en termes d'accompagnement. Au fond, le moment du travail des élèves, c'est un moment pédagogique qui mérite d'être réfléchi spécifiquement. Et ceci peut être extrêmement intéressant parce qu'une vieille tradition française, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, une vieille tradition française a été de séparer le moment de la classe où on fait les cours et le hors-classe où on s'exerce. Je rappelle que jusqu'au XIXe siècle, c'était l'inverse. C'est-à-dire, hors classe, on apprenait son cours, et en classe, on faisait des exercices. Ça a été renversé au début du 20e siècle pour des raisons qui ne sont pas en objet ici. Peut-être que les internats, et en particulier les internats d'excellence, donnent à réfléchir là-dessus, comment articuler le travail en classe, le travail hors classe. Alors, pour terminer sur cette question de la professionnalité, ce sont des ouvertures par rapport au travail habituel des enseignants, des conseillers d'éducation. Il ne s'agit pas forcément d'innovation totale. Il ne s'agit pas de la mise en œuvre de pédagogie alternative. On reste quand même globalement dans la forme scolaire. Alors, après avoir présenté ces résultats de la recherche sur les internats d'excellence, je voudrais en dire un peu concernant les internats d'excellence, les apports et les limites du dispositif. D'abord, des apports qui nous paraissent quand même peu contestables. Des apports pour les internes d'excellence en termes de mise au travail, en termes de résultats scolaires, en termes de sérénité dans l'exercice de son métier d'élève. en termes d'ouverture. Alors, c'est vrai pour les internes d'excellence, plus exactement pour la plupart d'entre eux. Il y a du distinction, hein, en fait, entre les élèves. Vous le savez bien, il y a des élèves qui sont très adaptés, pour lesquels le dispositif, c'est exactement ce qu'il fallait, on a envie de dire. Et puis, il y a d'autres élèves qui progressent peu à peu, lentement. Et puis, il y en a là qui progressent vraiment pas. On se demande si on n'a pas fait une erreur de casting complète. Quoique, certains, dont on désespérait, semblent quand même évoluer au bout de, je ne sais pas, je laisse les points de suspension. Apport incontestable, donc, pour les internes d'excellence, pour les équipes, auxquelles ça a posé des questions nouvelles. Et des questions nouvelles, et c'est intéressant, qui sont fécondes pour la prise en charge de tous les élèves. Plusieurs enseignants nous disent, ce que j'ai appris en regardant les internes d'excellence, ça m'apprend des choses pour mes autres élèves. Et finalement, ce dont ont besoin les élèves internes d'excellence, peut-être bien que les autres en ont besoin. Apport peu contestable aussi pour les parents. Je l'ai évoqué tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Donc je vais vraiment souligner les apports de ce dispositif. Il faut aussi dire rapidement un mot sur les limites du dispositif. J'évoquerai des limites que l'on peut regarder de l'intérieur et puis des limites que l'on peut regarder de l'extérieur. Si on est à l'intérieur du système, on peut dire qu'il y a quelques limites. D'abord, incontestablement, il y a un effet carte scolaire qui est un effet ambigu. Qu'est-ce qu'on appelle un effet carte scolaire ? C'est-à-dire, c'est le fait que un certain nombre d'élèves internes d'excellence réussissent simplement parce qu'ils ont changé de cadre. Ils ont changé de cadre social, ils ont changé de cadre scolaire, et finalement, on leur a offert tout autre chose que ce qu'ils avaient dans leur espace local d'origine. Entre parenthèses, l'institution scolaire tend à dire les élèves internes d'excellence, c'est ceux qui n'ont pas dans leur milieu social les conditions pour réussir. Et les parents et les élèves, ils disent, moi, dans mon collège d'origine, je n'avais pas les conditions pour réussir. En tout cas, ce dont les parents se félicitent et dont les élèves se félicitent, c'est ça. C'est qu'ils sont dans un milieu qui va leur permettre de travailler, qui va leur permettre la réussite. Pas forcément l'excellence. Les parents ne sont pas forcément en attente d'excellence. Comme c'est cet effet carte scolaire qui pèse beaucoup, finalement, pour les élèves, il ne va pas y avoir une attente d'innovation pédagogique, il ne va pas y avoir une attente très forte de s'écarter de la forme scolaire, d'une certaine manière, au contraire. Plus on est scolaire, mieux c'est. Encore limite de l'intérieur, les contenus de l'excellence. Les conditions de travail sont favorables, il y a une évolution plutôt positive des résultats scolaires. On ne sait pas, bien sûr, jusqu'où iront scolairement ces élèves internes d'excellence. Mais pour eux, effectivement, ça, c'est plutôt favorable. Deux questions, cependant, qui tournent autour de la même idée. Dans les internats d'excellence, on accorde beaucoup d'importance au thème de l'individualisation. Pas que dans les internats d'excellence, d'ailleurs, c'est un terme, j'allais dire, c'est une doxa aujourd'hui, au moins au niveau du discours dans l'éducation nationale. Et de fait, ça se traduit par une attention à chaque individu, à la personne des élèves, par un suivi qui peut être très proche, par un suivi qui peut être à certains moments exclusif, et les élèves s'en félicitent, on s'occupe de moi, on s'occupe de mes difficultés. Et ça, c'est très important, et d'autant plus important que ce n'était pas le cas avant, et dans le discours des élèves, il y a très fortement cette opposition, ça structure leur discours avant, maintenant, là-bas, ici. Et donc, forte attention à l'individualisation. Et en même temps, revers de la médaille, semble-t-il, peu d'attention au collectif. Peu d'attention au collectif au sens où le collectif peut être en principe, mais c'est rarement mobilisé comme cela, semble-t-il, dans les internats d'excellence, rarement mobilisé en termes d'apprentissage. C'est-à-dire on aide individuellement. Ce ne sont pas, on n'essaie pas de constituer des groupes d'apprentissage. Le collectif sert, certes, pour l'encouragement réciproque, mais pas forcément pour apprendre. Pour apprendre, c'est toujours avec un enseignant, c'est toujours avec un adulte, c'est toujours avec celui qui sait. Les élèves, par ailleurs, insistent sur le fait que ça a changé pour eux. On pourrait dire qu'il y a, dans les internats d'excellence, une mise en œuvre d'une pédagogie de la rupture. Rupture avec le milieu, on l'a dit, rupture avec les écrans, télé, avec les Facebook, avec les SMS, mais rupture aussi avec un mode de vie où le temps est peu organisé. Ici, le temps est organisé, et très organisé. Rupture aussi, mais elle est beaucoup plus volontaire de la part des élèves, avec les codes vestimentaires de leur milieu d'origine. Ils adoptent les codes vestimentaires autochtones, en quelque sorte. Rupture avec les codes langagiers. Rupture avec aussi un régime culturel, au sens où on parle d'un régime alimentaire. Et les élèves, du reste, disent volontiers « Depuis que je suis ici, j'ai changé. » Et ils prononcent tout ce qu'on a appelé, nous, un discours de la métamorphose. « Je ne suis plus le même. » Discours des élèves, certes, qui se disent en demande d'institution, et puis discours aussi des enseignants ou des CPE ou des chefs d'établissement qui remarquent que tel élève, au bout de 2 mois, ou tel élève, au bout de 18 mois, a fini par changer, s'est ouvert, s'est déplié, a commencé à sourire. Effectivement, les élèves ont changé. En même temps, il faut une certaine durée pour que des dispositions durables s'installent, et ça reste certainement une des questions pour les internats d'excellence. Quelques limites de l'extérieur aussi, c'est-à-dire quand on regarde les établissements, les internats d'excellence, sans y rentrer trop. Vous savez que les internats ont été l'objet de plusieurs critiques. Les internats d'excellence, une critique a été les internats d'excellence vont écrémer ou écrèment les établissements de zones prioritaires de leurs bons éléments. Pour autant qu'on n'ait plus le voir. Il semble que cette crainte qui était logique ne se soit pas avérée. Pourquoi ? Parce que les internats d'excellence recrutent sur des zones suffisamment larges pour recruter dans des établissements suffisamment nombreux pour que seuls 1 ou 2 élèves de quelques établissements soient retirés. En tout cas, ça ne nous paraît pas le risque le plus fort. Il y a aussi, bien sûr, la question de l'affectation des ressources pour l'éducation. Vers qui les dirige-t-on ? Monsieur Colonna a évoqué tout à l'heure la question des coûts d'un interne d'excellence. Dans les évaluations que nous avons faites, on a essayé de tout prendre en compte, c'est-à-dire pas simplement ce qui venait de l'éducation nationale, mais ce qui venait aussi des autres sources. On s'aperçoit qu'un élève interne d'excellence, un collégien, coûte à peu près 2 fois plus cher à la collectivité qu'un collégien ordinaire. Je dis à la collectivité, c'est-à-dire ministère de l'Éducation nationale, accès, tous les différents fonds qui abondent finalement le fonctionnement des internats d'excellence. Autrement dit, un collégien, au lieu de coûter 6 000 euros à la collectivité, il coûte entre 10 000 et 14 000 euros à la collectivité quand il est interne d'excellence. Ce qui est effectivement beaucoup, mais qui n'est pas plus qu'un élève de classe préparatoire aux grandes écoles, qui en moyenne appartient à des milieux sociaux nettement plus favorisés que les élèves recrutés dans les internats d'excellence. Ceci dit, la question demeure. Tout issu des milieux populaires que soient les élèves internes d'excellence, ils ne sont pas les seuls élèves issus de milieux populaires dans les établissements scolaires. Et on peut dire, mais pourquoi autant d'argent ici et finalement pas suffisamment ailleurs. Bien. Donc ça, c'est une critique qui reste, et enfin une question devant laquelle, d'ailleurs, je pense que les responsables ministériels sont placés. Et puis il y a aussi la question de la prise en compte de au fond, qui prend-on en compte dans les politiques publiques? Est-ce qu'on prend en compte des groupes ou est-ce qu'on prend en compte des individus? Il n'y a pas que dans l'éducation que, depuis un certain nombre d'années, on est en train de basculer de la prise en compte de ce que les Américains appellent « place », c'est-à-dire l'endroit, le territoire, à une autre conception, ce que les Américains appellent « people », c'est-à-dire les gens, du territoire vers les gens. Et ça traduit dans les politiques publiques en France, mais dans divers domaines, et pas que l'éducation, de territoires ou de groupes sociaux vers des individus. Et ça, c'est une conception de la politique publique qui peut être défendue, mais devant laquelle un certain nombre ne sont pas complètement d'accord. Malgré ces limites, il nous semble à nous, équipe de recherche, que si les internats d'excellence, en raison des limites ou en raison d'autres projets qui seraient développés, devaient voir ce programme s'éteindre. Il nous paraît tout à fait essentiel que les élèves qui ont commencé puissent y être accueillis jusqu'à la fin d'un cycle, parce que c'est une question de continuité de l'État qui est engagée. La promesse de la République vis-à-vis de ses élèves et vis-à-vis de leurs parents doit, nous semble-t-il, être tenue, quitte à trouver des moyens pour faire la transition. Il me reste aussi quelques minutes. Donc j'aborde le troisième point, les internats d'excellence et les internats ordinaires, puisqu'il s'agit du thème de ces deux journées. Alors, il faut d'autant plus évoquer cette question-là, non seulement c'est le thème des deux journées, mais que le projet de loi du 6 décembre 2012 concernant l'éducation prioritaire nous dit ceci. Les internats d'excellence constituent une réponse partielle et coûteuse à un besoin plus large. Tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer l'excellence scolaire et éducative aux élèves accueillis. Alors, d'abord, disons-le, il n'y a pas forcément des années-lumière entre les internats d'excellence et les internats ordinaires. Plusieurs d'entre vous auront reconnu, alors même qu'ils ne dirigent pas un internat d'excellence, mais un internat tout court, auront reconnu des pratiques, des façons de faire qui sont déjà acclimatées peu ou prou dans leur propre internat ordinaire. Mais une recherche précédente montre que c'est très variable d'un internat à l'autre et que globalement tout de même, les internats d'excellence permettent de tirer un certain nombre d'enseignements et de réflexions qui peuvent enrichir nos échanges au cours de ces deux jours sur l'internat scolaire. Alors, attention, ça ne signifie pas que ce qui est fait dans les internats d'excellence soit d'emblée transposable dans tout autre internat, puisque, on le sait, les conditions sont différentes, les moyens sont importants, les élèves sont volontaires, il y a un recrutement sélectif, mais malgré tout, un certain nombre de choses ont été faites au cours de ces deux années, au moins, même plus pour certains internats, dans les internats d'excellence. Les internats d'excellence sont une source d'enseignement pour les internats en général. Alors, sur trois ou quatre points, je voudrais y insister. D'abord, sur le travail scolaire. Les internats d'excellence montrent qu'on peut, et qu'il est fécond, d'insister beaucoup sur le travail scolaire, c'est-à-dire aux conditions matérielles dans lesquelles il est réalisé, donc conditions dans lesquelles il est encadré, et par qui il est encadré, et à son balisage dans le temps, dans l'espace, etc. Dans des internats qui n'ont rien d'internat d'excellence, ça c'est déjà l'objet d'une extrême attention. Mais dans d'autres, ben, les élèves font leur devoir dans une salle d'études qui n'est pas vraiment contrôlée, pas vraiment surveillée, où on se déplace beaucoup, où finalement on rentre, on sort. Bref, les conditions n'y sont pas favorables. On n'a jamais vu ça dans ce qu'on a enquêté, dans les internats d'excellence. Donc l'attention au travail scolaire paraît effectivement quelque chose à quoi les internats d'excellence invitent à faire attention, à prendre garde, à nouveau frais en quelque sorte, dans tout internat. Deuxième aspect des choses, c'est que les internats d'excellence nous montrent très très clairement que l'internat, ce n'est pas que de l'hébergement. Tendanciellement, il y a une opposition entre les internats privés et les internats publics. Les internats publics, globalement, ont tendance à dire l'internat est un service rendu aux familles, ça permet, finalement, on accueille les élèves et on les héberge. Dans les internats privés, on dit, de façon générale, l'internat est un lieu d'éducation, qui a ensuite fondé sur la morale chrétienne, etc., puisque les internats privés sont très très majoritairement catholiques, etc. Ça, c'est la présentation des internats. Ça ne veut pas dire que les internats publics n'aient pas de visée éducative, et ça ne veut pas dire que les internats privés aillent jusqu'au bout de la réalisation de leurs projets affichés. Mais, ce qui est clair, c'est que les internats d'excellence disent, finalement, on n'est pas là que pour héberger. Et donc, il y a une visée qui peut être une visée éducative. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir encadrer perpétuellement les élèves, ne pas trouver l'équilibre entre proposition éducative et vie adolescente, mais avoir une visée éducative. Et cette visée éducative, pourquoi est-elle affirmée dans les internats d'excellence? Sans doute parce qu'il y a ce projet global de l'excellence, mais aussi vraisemblablement parce que comme on s'adresse à des élèves issus de milieux populaires, c'est-à-dire qui dans la représentation collective, y compris celle de l'institution scolaire ou des personnels de l'éducation scolaire, sont des enfants ou des adolescents plutôt carencés sur le plan éducatif, dont on soupçonne volontiers les parents de pas tout à fait jouer leur rôle jusqu'au bout, eh bien, c'est pas gênant de leur proposer l'éducation, d'avoir une visée éducative qui soit non seulement de l'encadrement du travail, mais aussi de l'ouverture culturelle, mais aussi de leur rappel clair d'un certain nombre de règles collectives, d'attitude face au travail, d'attitude personnelle, etc. Et du coup, l'internat pourrait bien, de façon générale, être une ressource éducative dans un moment où il n'y a pas que les parents de milieux populaires qui ont des difficultés à être parents. Tous les parents ont des difficultés à être parents, ne serait-ce que parce qu'ils ont aussi des difficultés, compte tenu de leurs conditions de vie, compte tenu de leurs conditions de travail, à être présents, à soutenir leurs enfants. Et cela, ce n'est pas le cas simplement des familles d'ouvriers issus de l'immigration et au RSA. Hein. C'est le cas de familles de classe moyenne, de classe favorisée, dont les deux parents travaillent, sont extrêmement engagés professionnellement dans leur métier et donc dans leur réalisation personnelle, qui est très importante pour eux. Voilà. Et donc, si les internats d'excellence finalement nous aident à nous rappeler que il y a la reconnaissance d'un besoin de cadre pour les adolescents et d'un besoin de cadre qui est exprimé par des parents dans leur diversité sociale, mais qui peut être exprimé aussi par les adolescents. Et combien de fois l'avons-nous entendu? Pour autant, je le disais, il faut être en mesure de résister à l'obsession du contrôle, à force de se dire il faut un cadre, il ne s'agit pas d'empêcher les adolescents de vivre, mais de toute façon, si on voulait les empêcher de vivre, ils s'arrangeraient par des modes de vie clandestines pour retrouver leurs espaces de liberté. Troisième aspect des choses, dans ce que les internats d'excellence peuvent apporter aux internats, il y a l'intérêt d'une relation très suivie, plus suivie que l'ordinaire, avec les parents, et surtout pas seulement une relation qui est indexée sur les difficultés de travail ou les difficultés de comportement, mais aussi une relation qui est indexée sur, on vous dit, comment vont vos enfants. Et tout à fait dernier point, l'idée de travailler avec les partenaires extérieurs, qui est une idée déjà très largement mise en œuvre dans les établissements scolaires, qu'ils soient internats d'excellence ou non, idée d'autant plus mise en œuvre que c'est une nécessité aujourd'hui pour les établissements de s'inscrire peu ou prou dans leur espace local, eh bien, c'est quelque chose qui mérite d'être poursuivi, peut-être d'être intensifié, et de ce point de vue-là, ce souci d'éducation, ce souci de ne pas être simplement des établissements d'hébergement, est porté non seulement éventuellement par des équipes à l'intérieur des établissements, mais est porté de plus en plus par les collectivités locales. Certaines régions, certains départements disent « Nous voulons encourager le développement des internats, mais avec l'idée que l'internat ne soit pas simplement un espace d'hébergement, un lieu d'hébergement, mais aussi qu'il soit, au bénéfice de tous, un espace éducatif. » Voilà, je vous remercie.